Invité de cette édition, et c'est en quelque sorte, on va dire, l'actualité du jour, mais de ces derniers jours, puisque Greenpeace et son collectif feront une manifestation à Biscarrosse entre le 22 et le 24 septembre, avec pas moins de 3 concerts. C'est le chargé de campagne du désarmement nucléaire au sein de Greenpeace, Xavier Renoux, que nous accueillons ici dans ces studios. Xavier, bonjour, merci d'avoir rejoint nos studios, les studios d'Intel. Vous avez d'ores et déjà, on va dire, le lieu de concert, le lieu des concerts, mais également des conférences et autres que vous allez réaliser à Biscarrosse entre le 22 et le 24. Ce sera l'ère des gens du voyage à Biscarrosse, entre Biscarrosse et Parentis. Est-ce que ce lieu, tout d'abord, vous convient ?
Déjà, si on peut, par notre présence, permettre l'amélioration de l'accueil des gens du voyage, c'est une très bonne chose. Ensuite, c'est un terrain très grand qui est certes situé dans une zone industrielle, mais à proximité de bosquets d'arbres. Il est équipé en eau et en électricité, donc il permet un accueil très favorable du public.
Où se mettront les véhicules ? C'est un petit peu la question que tout le monde se pose ici.
Alors, il y a un parking, en fait. On nous permet de transformer en parking une aire qui permet l'accès à l'aérodrome, donc juste derrière le terrain des gens du voyage.
Alors, chargé de campagne désarmement nucléaire à Greenpeace France, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est Xavier Renoux ? C'est un petit peu la question que l'on peut ici se poser.
J'étais un militant pacifiste engagé dans différents mouvements et par ailleurs un chercheur en sciences politiques sur les questions des conflits et d'armement. Donc quand Greenpeace a cherché à créer ce poste, à relancer cette campagne il y a maintenant un an et demi, campagne historique de Greenpeace, j'ai postulé, j'ai été pris, j'avais le profil du militant et un petit peu de l'expert.
Œuvrer pour le désarmement, ça veut dire être présent sur le terrain, s'informer ?
Alors ça veut dire effectivement développer une expertise, donc s'informer en permanence, rencontrer un maximum d'acteurs, nouer des contacts avec des gens de l'intérieur, ce qu'on appelle les insiders, qui peuvent nous fournir de l'information directe, et puis en outre mobiliser, prévoir et planifier des actions pour avoir un impact sur la politique que l'on dénonce.
Quels sont vos plus grands succès entre guillemets à Greenpeace France concernant, on va dire, certaines opérations qui n'ont pu aller jusqu'au bout, mener jusqu'au bout de par, on va dire, votre entêtement?
Ça fait seulement un an et demi que la campagne a été relancée, donc le principal succès, c'était qu'on recommence à parler de pacifisme en France, de désarmement nucléaire. Plus personne n'en parlait depuis la victoire contre la reprise des essais nucléaires de 96. Il n'y avait pas eu de manifestation, de mobilisation, même d'unité de la mouvance pacifiste en France depuis 10 ans. Là, aujourd'hui, on a une large coalition qui s'étend, y compris au-delà des frontières de la mouvance pacifiste. On a ATTAC, on a le mouvement de la paix, on a le Parti communiste, les Verts, la LCR et bien d'autres qui nous ont rejoints, le MRAP et d'autres, pour autour d'un mot d'ordre clair: il faut arrêter la relance de l'arme nucléaire en France et notamment le développement des mini-bombes nucléaires d'attaque. Ça, c'est déjà quelque chose de fort. Après, on a frappé, entre guillemets, de manière toujours non violente, à différents endroits le complexe militaro-industriel. On a fait des coups qui régionalement ont eu un impact fort. Au niveau national, on a encore des difficultés à faire passer nos messages.
Ce collectif peut être considéré comme politisé ?
On fait de la politique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la vie de la cité, à ce qui devrait intéresser tout le monde et qui devrait donner l'occasion à tout le monde de s'exprimer. Donc là, on va s'exprimer sur la politique de défense qui, jusque-là, était le point obscur de la démocratie. C'est le domaine réservé du président de la République. Tout se fait dans les alcôves secrètes des palais de la République. Et le peuple, y compris sa représentation au niveau du Parlement, est généralement complètement à côté de ces choses. Donc là, on va rendre public ce qui se trame au centre des Cédélandes. On va poser la question de la nécessité ou non qu'il y a à développer des mini-bombes nucléaires d'attaque. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme projet et de société, parce que c'est un détournement massif de richesses collectives, et puis comme projet évidemment de politique étrangère, de guerre. Qui est-ce qu'on vise avec ces mini-bombes ? C'est pas pour se défendre, c'est pour attaquer. Alors qui est-ce qu'on veut attaquer ?
Vous n'avez pas totalement répondu à ma question, même si vous êtes un homme de communication, je le conçois. Xavier Renoux, homme de gauche, homme de droite, quelle couleur ? Quelle couleur aussi pour ce collectif ?
J'avais pas bien compris effectivement le sens de votre question. On est un collectif qui n'a pas une identité politique précise. Nous sommes rassemblés autour d'une question qui nous unit. Au-delà, nous ne partageons pas nécessairement les mêmes positions. Je disais à l'instant qu'en termes de partis politiques, nous avions à ce jour le soutien des Verts, de la Ligue communiste révolutionnaire et du Parti communiste français, et de secteurs importants du Parti socialiste, d'éléments pas négligeables de l'UDF, et on est en train de creuser au-delà. Donc vous voyez, c'est une coalition assez large qui dépasse dans une certaine mesure, le clivage droite-gauche. Maintenant, la réalité, c'est effectivement qu'il y a une majorité de formations qui se reconnaissent dans la gauche.
Lutter contre les armes nucléaires, c'est en quelque sorte le pot de terre contre le pot de fer. Je pense que, quelque part, vous allez à l'encontre, peut-être, de secteurs économiques qui pèsent un certain poids, on va dire, dans le monde.
On a eu déjà de nombreuses victoires passées contre le lobby militaro-industriel en matière de nucléaire. On a arrêté les essais nucléaires, ils sont interdits aujourd'hui dans le monde entier. Il y a eu, pour cela, besoin de mobilisation populaire considérable, d'actions directes non violentes. On se rappelle tous de l'attentat contre le Rainbow Warrior il y a 20 ans, qui a tué l'un de nos photographes. Toutes ces actions-là, elles ont été payantes. On s'est aussi battu contre l'immersion des déchets nucléaires, y compris militaires, de toutes ces armes qui devenaient obsolètes, dans les océans. Et on a gagné aussi sur ce combat-là. Évidemment, les victoires ne sont jamais définitives, il faut maintenir le rapport de force, mais il est possible de faire reculer le monstre froid du nucléaire. Ce que l'on essaie de nous convaincre, c'est effectivement que nous sommes impuissants, que nous sommes ignorants, que c'est trop compliqué, qu'on n'y peut rien et que circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, nous allons montrer que non. En démocratie, le citoyen peut participer à la prise de décision dans tous les domaines et s'il a besoin d'une expertise extérieure, on fait venir des experts indépendants qui vulgarisent le savoir et qui permettent d'y accéder. Donc, on peut gagner contre le nucléaire militaire et on va gagner, on va faire reculer cette logique. Il y a eu du désarmement dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90. On a quand même détruit au niveau mondial 30 000 bombes nucléaires, soit la moitié des bombes, des stocks de bombes nucléaires au monde. Ça, c'est une victoire qui est passée un petit peu inaperçue parce que les dirigeants qui ont été contraints de faire ça ne l'ont pas forcément dit sur la place publique, mais on a réussi ça. Simplement depuis 95-96, il y a une relance par trois pays voyous, États-Unis, France, Grande-Bretagne, c'est pas les pays voyous qu'on pense, de l'arme nucléaire. Il faut l'arrêter, on peut l'arrêter, on a gagné dans le passé, on va encore gagner aujourd'hui.
C'est au détriment peut-être comme ici de certains emplois qui seraient oui ou non sauvegardés. Est-ce que c'est un faux problème?
Alors je crois que c'est pas un faux problème l'emploi évidemment, mais c'est un faux discours. C'est-à-dire qu'évidemment le lobby militaro-industriel va vous dire que il défend l'emploi. La réalité c'est qu'il licencie tous les jours des travailleurs de ces entreprises, que les carnets de commandes exigent de moins en moins de main d'œuvre ou de plus en plus de délocalisation. Donc on est de toute façon dans un schéma où cette industrie fait beaucoup de bénéfices à un carnet de commandes qui est plein et pour autant se passe de plus en plus de main d'œuvre dans nos pays et de main d'œuvre tout court. On a besoin de moins en moins de gens, on robotise, etc. Donc il y a là une débauche de ressources considérables qui pourraient aller à des secteurs beaucoup plus productifs. Le secteur des énergies renouvelables, par exemple, c'est un secteur complètement sous-développé en France. L'Allemagne a fait ce choix depuis très longtemps. Elle est aujourd'hui en mesure de produire de l'électricité et de l'énergie de manière générale à équivalence de ce que nous faisons en nucléaire. Si le savoir des ingénieurs laser mégajoule, du centre d'essai des Landes, de EDS, de la SNECMA, etc., était converti dans ces domaines, on pourrait faire des progrès considérables vers une société qui est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus prospère et moins basée sur le gaspillage. Donc il y a des secteurs d'emploi à développer, simplement c'est une question de volonté politique.
Greenpeace peut faire peur quand elle vient, on va dire, dans une région comme celle-ci. Vous allez inspecter normalement, entre guillemets, le centre d'essai et de lancement de missiles, car c'est véritablement le nom de l'ancien centre d'essai des Landes. Est-ce que vous êtes conscient tout de même que c'est en week-end que ça se passe et que ces gens ne travaillent pas pendant le week-end?
Alors détrompez-vous, ils travaillent.
Du moins, c'est restreint.
Alors, c'est effectivement restreint. Donc, nous allons être là le vendredi, le samedi, le dimanche pour exercer une pression sur ce centre d'essai des Landes pour éventuellement perturber le fonctionnement. J'ai pas peur de le dire, de manière démocratique, mais par un harcèlement démocratique fort. La réalité, c'est qu'effectivement, le samedi, il est peu probable qu'il y ait un tir d'essai du M51, même si nous sommes dans la période, mais effectivement, les tirs n'ont pas lieu le samedi habituellement. Néanmoins, perturber le fonctionnement, c'est retarder aussi l'installation du site pour la semaine d'après, c'est attirer la visibilité forte sur cet événement et c'est se donner les moyens à moyen terme, d'intervenir d'autres jours de la semaine sur ce site. Alors c'est vrai que c'est la première fois que nous relançons cette mécanique autour du centre d'essai des Landes. C'est, je crois, la première fois qu'un vrai rassemblement se déroule dans cet endroit, sur cette problématique-là. Si on réussit cette fois, on sera en mesure, en avril 2007, au moment des élections présidentielles, de faire un coup beaucoup plus important, et cette fois certainement aussi en semaine, pour empêcher le crime que l'on prépare au centre des Cédélandes.
Xavier Renaud, on aura l'occasion naturellement la semaine prochaine de se rencontrer de nouveau, de réaliser des directs ou de couvrir, on va dire, cette grosse mobilisation, ce rassemblement. Une dernière question, le pacifisme, il sera incarné ces 22, 23, 24 par des artistes comme Johnny Clegg, Les Motivés, Marcel et son orchestre. Ce sont des gens qui vous suivent, on va dire, dans cette idée, dans cette idée qui peut paraître utopique pour certains.
On dit utopique, moi je m'inscris en faux véritablement sur ce terme, parce que Johnny Clegg vient justement spécifiquement pour nous et gratuitement, hein, tous les artistes viennent bénévolement, donc c'est un véritable engagement, c'est pas du charity business, c'est pas du showbiz. Johnny Clegg vient d'un pays qui précisément a développé la bombe nucléaire dans les années 80, c'était le temps de l'apartheid, et quand le gouvernement de Nelson Mandela, premier gouvernement démocratique, a pris le pouvoir en 94, une des premières décisions de Nelson Mandela, ça a été de se débarrasser de la bombe atomique. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un des pays les plus en soutien des organisations pacifistes comme Greenpeace et d'autres au niveau mondial pour exercer une pression très forte sur les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, pays voyous en matière de nucléaire. Et ça n'est pas une exception. Le Brésil a également renoncé à la bombe nucléaire. L'Argentine a également démantelé son programme de nucléaire militaire. La Suède, ce qui est très largement ignoré en Europe, avait aussi développé une bombe nucléaire en 68 qu'elle s'apprêtait à tester. Et puis elle a décidé de jouer le jeu du pacifisme en rejoignant le traité de non-prolifération, cet instrument juridique mondial qui prépare le désarmement. Donc, il y a finalement une écrasante majorité des États dans le monde qui jouent le jeu du désarmement, soit en refusant de se doter de la bombe, soit quand ils avaient auparavant développé des capacités nucléaires militaires, en démantelant ces capacités-là. Il n'y a qu'une infime poignée d'États voyous. Et ces États voyous ne sont pas ceux qu'on montre du doigt à la télé, ce sont nos pays qui, depuis peu, ils ont à un moment aussi respecté les règles, qui depuis peu ont décidé de faire de l'arme nucléaire une arme du champ de bataille. Parce que pétrole, parce que on a envie d'aller prendre le pétrole de certains pays au Moyen-Orient. Jacques Chirac a été très clair en janvier dernier, quand il a pour la première fois rendu un peu public tout ce qui se tramait depuis plusieurs années en France en matière de guerre nucléaire. Il a dit, c'est pour sécuriser nos approvisionnements énergétiques. Ça veut dire prendre leur pétrole. La prochaine guerre d'Irak, d'Iran ou d'Afghanistan, elle se mènera certainement à la mini-bombe nucléaire.
Vous allez inviter Alain Dudon, le maire de Biscarrosse, à rejoindre le collectif ou des maires pour la paix. C'est en quelque sorte le message que vous allez essayer d'avoir envers ce premier magistrat qui vous accueille, qui vous propose une aire.
Bien sûr, il a déjà le courage de nous accueillir sur sa commune. C'est un vrai courage politique parce que on peut comprendre qu'une partie de ses électeurs soit liée économiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, au centre des Cédélandes. Donc c'est courageux, c'est un signe d'ouverture.
Vous le mettez pas en porte-à-faux quand vous dites il a le courage de nous accueillir?
Ben non, pourquoi? C'est indéniablement un courage, il n'était pas obligé de le faire. Nous avions identifié plusieurs terrains sur plusieurs communes. Plusieurs communes étaient d'ailleurs intéressées. Au final, en matière de sécurité, en matière d'appui politique, en matière de gestion des différents partenaires, c'est Biscarrosse qui a été retenu avec l'appui du maire de Biscarrosse. Je ne vais pas vous dire que c'était le plus enthousiaste, mais je ne vais pas non plus vous dire que c'était quelqu'un qui refusait. S'il avait refusé, ça n'aurait pas eu lieu à Biscarrosse.
Merci Xavier Renaud, on se retrouve naturellement la semaine prochaine, où nous aborderons dans de plus grandes proportions, on va dire, avec un espace-temps beaucoup plus important, ce rassemblement de Greenpeace à Biscarrosse qui devrait attirer entre 10 et 20 000 personnes.